Ottawa, Afrique. Les infos. À Washington.
Raissa Gérondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Du football, la CAF retire l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Au Soudan du Sud, 125 femmes violées ou brutalisées en 10 jours dans le nord du pays. Un journaliste rwandais de la BBC arrêté pour terrorisme à Kigali pour possession d'explosifs. En Côte d'Ivoire, la Cour suprême annule les municipales dans 4 localités. Et à suivre, analyse sur le sommet du G20 en Argentine qui s'ouvre dans un contexte tendu.
La guerre économique qui a été déclenchée par les États-Unis va absolument dominer complètement les débats du G20.
Et dans la Minute Éco, BMW annonce un projet pour améliorer les conditions d'exploitation du cobalt en RDC. Mais tout d'abord, le journal. La nouvelle vient de tomber. La Confédération africaine de football vient de retirer au Cameroun l'organisation de la CAN 2019. Pour les réactions au Cameroun, nous retrouvons à Yaoundé notre correspondant Emmanuel Juntap. Emmanuel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vos réactions suite au retrait de l'organisation au Cameroun?
Alors, il faut dire que c'est une décision qui est approuvée par beaucoup de Camerounais qui reconnaissent que le pays n'était pas véritablement prêt. Et beaucoup estiment malheureusement que c'est un rêve brisé pour le Cameroun et tous les Camerounais, notamment pour les riverains des chantiers de la CAN à Yaoundé, dans une banlieue qu'on appelle Olembe, où devait se jouer par exemple le match d'ouverture et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On parle de rêve brisé sur la base d'un contact que nous venons d'établir avec un riverain de ce chantier. Et on accuse déjà le fait que beaucoup des marchés des infrastructures sportives de la Coupe d'Afrique des Nations a été passé de gré à gré à la dernière minute. Il y a eu de très nombreux reports du délai de livraison des chantiers. Aujourd'hui, tout au long de cette journée, les Camerounais ont attendu cette décision de la CAF et le moins que l'on puisse dire est que la déception est quand même énorme pour beaucoup de Camerounais. Et on se pose surtout la question de savoir dans quel état d'esprit sera le président du Cameroun ce dimanche qui doit aller présider la finale de la Coupe de Cameroun de football, un moment qui était préparé pour nouer sa grande diplomatie par rapport à la Cour d'Afrique des Nations.
Oui, Emmanuel, quel pays très rapidement pourrait en profiter?
Alors, pour le moment, on ne sait pas très bien. Peut-être que les décisions qui vont sortir de Accra seront un peu plus explicites pour permettre de savoir quel est le pays qui va remplacer le Cameroun. Mais cela va sans dire que quand on lit des conversations, des articles de presse, il y a de fortes chances que l'Égypte, le Maroc ou l'Afrique du Sud puissent sans doute remplacer le Cameroun.
Merci beaucoup, Emmanuel Juntap, en direct de Yaoundé. Merci beaucoup.
Merci.
Et on reviendra plus tard sur cette nouvelle qui vient de tomber. Nous poursuivons en République démocratique du Congo. Au moins 3 militaires ont été tués dans des combats avec des présumés rebelles en Ituri sur les bords du lac Albert. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Tchikoudi, l'Ituri est secoué par des violences attribuées à la reprise des affrontements communautaires entre l'Hindou, agriculteur, et Emma, commerçant éleveur. Toujours en République démocratique du Congo, le comité laïque de coordination et la Lucha, deux organisations opposées au président Joseph Kabila, ont mis en garde contre tout report des élections et contre les conditions de vote prévues pour le jour des scrutins. Au-delà du 23 décembre, de nouveaux dirigeants doivent être à la tête de la République, a déclaré le collectif catholique, comité laïque de coordination. Violence contre les femmes à Bentiu, au Soudan du Sud, où Médecins sans frontières a dénombré en 10 jours 125 femmes et filles violées ou brutalisées alors qu'elles cherchaient à s'approvisionner en vivres. Les précisions de Nathalie Barge.
Certaines victimes étaient des fillettes de moins de 10 ans et d'autres des femmes de plus de 65 ans, indique Médecins sans frontières dans un communiqué en précisant que les agressions ont eu lieu entre le 19 et le 29 novembre. Les femmes enceintes n'ont pas été épargnées, témoigne Ruth Okello, sage-femme travaillant pour l'ONG au Soudan du Sud. Les agresseurs ont attaqué dans la plupart des cas lorsque les victimes tentaient d'atteindre les centres de distribution de vivres. Elles ont été soit violées, soit fouettées, battues ou matraquées avec des bâtons ou des crosses de fusil, puis dépouillées de leurs rares possessions, y compris les vêtements, chaussures, argent, ainsi que des cartes d'alimentation, précise Médecins sans frontières. L'ONG n'a pas été en mesure d'identifier les auteurs de ces agressions. Le Soudan du Sud continue de subir les conséquences de la guerre civile déclenchée en décembre 2013 à Djouba lorsque le président Salva Kiir a accusé son vice-président Riek Machar de préparer un coup d'État.
Et suite du procès du putsch de 2015 au Burkina Faso, le général Diendéré, considéré comme le cerveau du coup d'État manqué contre la transition, comparaît depuis lundi devant le tribunal militaire. L'ancien bras droit de Blaise Compaoré a reconnu ce vendredi avoir donné 85 millions de francs CFA aux éléments du RSP qui ont participé à ce coup d'État. Alors, comment s'est-il comporté durant ces 4 jours d'audition? La réponse de Abdoul Fattah Tiamtoré. Il suit le procès pour Omega FM à Ouagadougou.
C'est un Gilbert Diendéré assez expressif et assez serein que nous avons pu observer durant cette première semaine d'audition. Contrairement à la discrétion qu'on connaît à cet homme-là, considéré comme la boîte noire du régime Compaoré, il ne nie pas son rôle dans les événements, même s'il ne reconnaît pas les infractions telles que formulées. Et pendant 2 jours, les 2 premiers jours de son audition, a passé le temps, beaucoup de temps en tout cas, à revenir sur certains aspects concernant le Premier ministre Isaac Rida, qui est issu de leur rang. Il assume l'aspect politique de ce coup d'État. Mais pour lui, c'est juste assumer une action qui était déjà en cours. Mais avec l'accompagnement, il le précise donc à chaque fois de la hiérarchie militaire. La hiérarchie militaire, justement, qu'il a chargée depuis le début, estimant donc que certains d'entre eux devaient être à la barre avec eux ou dans le box des accusés parce que, ayant donc posé certains actes qui étaient à même de soutenir le CND ou en tout cas l'action qui était en cours. Il a de temps en temps aussi un peu le ton quand il y a des questions où visiblement on sent qu'il est un peu coincé. Il a même refusé de répondre à certaines questions, justement sur certaines déclarations des chefs militaires ou d'autres personnes citées comme témoins par le parquet militaire.
Et interpellation au Rwanda d'un journaliste travaillant comme pigiste pour le service local de la BBC Radio. Selon le bureau rwandais d'enquête, il est accusé de possession d'explosifs et de participation à un complot terroriste. Les précisions de Nani Talani.
Focas Ndaizera, âgé de 39 ans, n'avait plus été vu par ses proches depuis une semaine. Selon le bureau rwandais d'enquête, ce journaliste a été arrêté en flagrant délit alors qu'il recevait les explosifs. Paradé hier devant les médias, l'accusé a dit n'être pas au courant des raisons pour lesquelles il a été arrêté, ni des accusations qui pèsent sur lui. Il encourt une peine de 20 ans de prison s'il est reconnu coupable au terme de la loi antiterroriste au Rwanda. L'organisation rwandaise de la presse a fait savoir qu'elle espère que M. Ndaizera bénéficiera d'un procès équitable. Toutefois, elle dit ne pas pouvoir s'impliquer dans le dossier, les accusations n'étant pas, selon elle, liées à son travail de journaliste. Le président Kagame est régulièrement accusé de bafouer la liberté d'expression et de museler toute opposition. Le service radio de la BBC en Kinyarwanda est suspendu au Rwanda depuis 2014, suite à la diffusion par ce média d'un documentaire impliquant le chef de l'État rwandais Paul Kagame dans l'attentat contre l'avion de l'ancien président Juvénal Habyarimana, élément déclencheur du génocide de 1994.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Buenos Aires, le président américain Donald Trump, le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président sortant du Mexique Enrique Peña Nieto ont signé l'accord États-Unis-Mexique-Canada après des mois d'âpres négociations. Les précisions avec Jacques Aristide.
C'est en marge du sommet du G20 dans la capitale argentine qu'a eu lieu la cérémonie de signature de ce nouvel accord commercial nord-américain. L'occasion pour le président Trump de souligner le caractère historique du traité et rappeler qu'il a dû batailler pour faire renégocier l'ALENA qu'il jugeait défavorable à son pays.
Aux États-Unis, le nouvel accord supportera des emplois bien rémunérés dans les secteurs manufacturiers,
tout en favorisant les exportations tous les secteurs visés par l'entente, dont l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services.
Quant au Premier ministre canadien qui continue de parler du nouvel ALENA, il relève que l'accord apporte la stabilité à l'économie canadienne et lève le risque d'incertitude.
L'accès au marché au nord-américain sans tarif douanier que nous garantit l'accord de libre-échange protège au moins 70% des exportations canadiennes.
Enrique Peña Nieto, dont le mandat s'achève ce vendredi, a déclaré pour sa part que l'AEUMC profiterait à chacun de leurs trois pays et favoriserait la prospérité de l'Amérique du Nord. L'AEUMC devra encore être ratifiée par les parlements des trois pays avant d'entrer en vigueur.
L'actualité économique en Afrique, on en parle avec Nani Talani.
La société automobile allemande BMW a annoncé un projet pilote pour améliorer les conditions de travail dans les mines de cobalt en RDC. L'initiative est soutenue par les géants de la chimie BASF, le fabricant de batteries Samsung SDI et l'agence allemande de développement GIZ. D'après Reuters, le projet étudiera pendant 3 ans les moyens d'améliorer les conditions de travail et de vie dans une mine des régions où le cobalt est extrait. Toutefois, BMW n'achètera pas directement le cobalt de la mine qui sera exploitée par une coopérative locale. En Côte d'Ivoire, Société Agricole veut reprendre pour 145 milliards de francs CFA la SAF Cacao, quatrième exportateur ivoirien de cacao, mise en liquidation judiciaire en 2018. Selon le groupe de presse Bloomberg, une enveloppe de 15 milliards de francs CFA sera dédiée au fonds de roulement de la SAF Cacao, tandis que le reste du montant sera versé sur 10 ans. Les 15 milliards de francs CFA devraient être remboursés avant la conclusion d'un accord final. Pour finir, cette semaine, le sucre a atteint son plus haut niveau depuis près d'un mois à 353,80 $ la tonne à Londres et à 13,21 cents à New York. Néanmoins, les perspectives...
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
La CAF examine aujourd'hui la question de la CAN 2019 au Cameroun.
Oui, le comité exécutif de la CAF s'est réuni à Accra en marge de la CAN féminine. Un compte rendu des deux dernières visites d'inspection a été exposé au cours de la réunion. Les inspecteurs de la CAF ont effectué récemment une inspection sécuritaire et une autre sur les infrastructures, stades et hébergements. Une annonce officielle est attendue sur le maintien ou pas de la CAN 2019 au Cameroun. Pour l'heure, les commentaires vont bon train et sur les réseaux sociaux, beaucoup évoquent déjà le retrait de l'organisation du tournoi au pays de Samuel Eto'o. Si le Cameroun est écarté, la CAF devra relancer une nouvelle procédure d'appel à candidature pour désigner un autre pays hôte, une chose qui serait alors faite dès demain samedi. Le Maroc est régulièrement cité par les médias comme possible remplaçant du Cameroun. L'Afrique du Sud devrait aussi postuler selon des sources bien introduites.
Salah, Mané et Aubameyang parmi les nommés pour le Ballon d'Or africain.
Et oui, l'Égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, tenant du titre, fait partie des nommés, aux côtés des autres cracks comme ses coéquipiers en club, le Sénégalais Sadio Mané et le Guinéen Naby Keïta et le Gabonais d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Parmi les 34 joueurs retenus, on trouve aussi les Sénégalais Idrissa Gueye d'Everton, Khalidou Koulibaly de Naples, l'Algérien Riyad Mahrez de Manchester City, le Marocain de la Juventus Mehdi Benassia. Le gala de remise des prix se tiendra le mardi 8 janvier 2019 à Dakar, au Sénégal donc.
Et Kinshasa rêve de remontada en finale retour de la Coupe CAF.
Battu par le Raja en finale aller à Casablanca, l'entraîneur de l'AS Vita Club, Florent Ibengué, promet de renverser les Verts dans la capitale congolaise. Le coach des Dauphins Noirs a déclaré que ses joueurs comptent réaliser une remontada historique contre le club marocain. Dimanche prochain, l'AS Vita Club et le Raja se connaissent pour avoir déjà été adversaires en match de poule 0-0 à Casa en mai, 2-0 au stade des Martyrs à Kinshasa en août dernier.
Et pour finir, Yacouba, la finale de la Copa Libertadores s'invite à Madrid.
Oui, la finale retour de la Copa Libertadores entre les deux clubs rivaux de Buenos Aires, River Plate et Boca Juniors, se jouera le 9 décembre au stade Santiago Bernabéu. L'annonce a été faite par la CONMEBOL, la Confédération Sud-Africaine de Football. Initialement programmée le 24 novembre au stade monumental de River Plate, la rencontre a été reportée en raison de l'attaque de l'autocar transportant les joueurs de Boca Juniors. Lors de la finale allée le 10 novembre, joué au stade de la Bombonera de Boca Juniors, le duel s'était soldé par un match nul
2000.
Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raïssa Girondin avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Au Congo, Brazzaville reprit ce matin des activités à l'université Marianne Gwabi, fermée depuis 3 mois. Le personnel qui réclamait essentiellement le paiement de 6 mois de salaire va se contenter du versement d'un mois en attendant de poursuivre les négociations avec le gouvernement. Le point avec notre correspondant Arsène Séverin.
C'est au terme d'une assemblée générale qui a duré toute l'après-midi de jeudi que la décision de reprendre les activités à l'université Marianne Gwabi a été prise. Plusieurs avis divergents sur la levée ou non de cette grève ont finalement débouché sur la reprise du travail dès aujourd'hui vendredi. Dans une déclaration, les syndicalistes appellent tous les travailleurs de l'université à reprendre les cours à la suite de quelques points satisfaisants obtenus lors des discussions avec le gouvernement.
Paiement immédiat du salaire du mois de juin 2018. Paiement des heures diverses dues au titre de l'année académique 2016-2017. Versement de la subvention de fonctionnement. Poursuite des négociations avec le ministre de tutelle en vue du règlement des mois de salaire impayés et des heures diverses dues. Paiement régulier des salaires au même rythme que les agents de la fonction publique. Demande à l'ensemble des travailleurs de l'université Marianne Gwabi de rester serein et vigilant, se réserve le droit de déclencher à tout moment une autre grève si la partie gouvernementale ne respecte pas ses engagements. Fait à Brazzaville le 29 novembre 2018, l'Assemblée des syndicalistes.
La levée de la grève a été précédée par d'intenses négociations directes avec le Premier ministre Clément Mouamba. Les syndicalistes avaient exigé que le ministre de l'Enseignement supérieur ne participe pas à cette rencontre, estimant que ce dernier n'avait jamais souhaité dialoguer avec les universitaires en grève. Pour Gabriel Bissanga, responsable syndical à Marianne Gwabi, le tout se joue maintenant au niveau des engagements pris par les autorités.
On souligne un point important. On se réserve le droit de déclencher une grève si la partie gouvernementale ne respecte pas ses engagements. Nous restons attachés au respect des engagements qu'ils ont pris. L'année passée, nous avons levé, suspendu la grève par patriotisme. Maintenant, nous avons eu des engagements de la part du gouvernement. Nous espérons que le gouvernement tiendra parole.
Déclenchée le 6 septembre dernier, cette grève a paralysé toute l'université Marianne Gwabi alors que les nouveaux bacheliers 2018 attendent toujours d'être inscrits. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire. En Côte d'Ivoire, les usagers du téléphone se plaignent régulièrement de la mauvaise qualité des communications. Une situation qui a amené l'organe de régulation des télécommunications à menacer de prendre des sanctions si rien ne change. Les précisions de notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Dans les rues d'Abidjan, les Ivoiriens qui grognent contre la mauvaise qualité du réseau téléphonique sont nombreux.
Oui, ça nous fait des préjudices, surtout l'Internet. Il y a des fois, tu souscris, bon, nous qui travaillons un peu avec les portables, il y a des fois, tu souscris, tu n'arrives pas à naviguer, et puis bon, le délai passe.
Vraiment, le réseau de Côte d'Ivoire, quand ils ne payent pas Internet, d'abord, ils n'arrivent pas à naviguer. C'est pas ça, vraiment, ils n'ont pas essayé d'améliorer un peu, sinon, c'est pas bon.
C'est vraiment dur pour moi. Tu appelles quelqu'un en te disant qu'il n'est pas disponible.
Cette mauvaise qualité du réseau téléphonique a un impact négatif sur les activités économiques. Mireille Oboiseau, la trentaine, est gérante d'une entreprise de transfert d'argent dans la commune du Plateau, le quartier des affaires à Abidjan.
Quand les clients viennent, quand nous faisons les transferts, des fois ça ne va pas, les clients se plaignent.
Face à cette situation, la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, menace de retirer la licence aux compagnies qui ne prendront pas des mesures pour améliorer leurs services. Billy Diemeleou, directeur général de l'ARTCI.
Nous, en tant que régulateurs, c'est de veiller à ce que la qualité de service soit bonne. Nous insistons auprès des opérateurs, nous leur rappelons leur cahier des charges, leurs obligations. Et ils sont tenus de faire de sorte que la qualité de service soit de mise. Et le régulateur, c'est son rôle. Et je pense que ce rôle-là est joué. Mais nous allons prendre des mesures plus dures maintenant. Et je pense qu'ils en tiendront compte. S'ils ne respectent pas, on ira même jusqu'au retrait des licences.
Mais comment expliquer cette dégradation du réseau téléphonique, Billy Diemeleou?
Les opérateurs eux-mêmes ont attiré notre attention sur un certain nombre de difficultés. Et ils ont commencé à entreprendre des travaux sur le réseau. Donc, ils ont trouvé que ces travaux, non seulement qu'ils ont signalé, ça allait perturber les qualités du réseau. Donc, nous en avons pris bonne note. Ensuite, ce réseau se dégrade aussi. Il y a les actes de vandalisme qui parfois sont causés sur les réseaux des opérateurs, surtout par rapport à la fibre optique, les vols de batterie, des vols de panneaux solaires, et ainsi de suite. Et tout ça, ça ne permet pas au réseau d'être, disons, de très bonne qualité. Mais il peut arriver aussi que notre système d'énergie qui fluctue, quand il fluctue, bien, ça dégrade aussi, ça perturbe le réseau. Puis parfois aussi, il y a des travaux de génie civil qui se déroulent par rapport à la création des routes. Et ça aussi, ça endommage des infrastructures techniques et aussi ça cause des désagréments.
Au premier semestre 2018, la Côte d'Ivoire comptait 3 opérateurs de téléphonie mobile qui se partageaient près de 35 millions d'abonnés. Georges Ibrahim Toulkara, VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, le nouveau découpage administratif et l'exploitation anarchique de l'or créent du mécontentement dans l'extrême nord du pays. Certains accusent le gouvernement de profiter de la menace des rebelles dans cette partie du pays pour s'en prendre aux orpailleurs. Une situation que dénoncent les cadres de la province du Tibesti en proie à la violence. Anjamena, le reportage d'André Komadjinga.
La population de la zone de Tibesti dans le nord du Tchad est entre le marteau des rebelles qui menacent le fauteuil du président Déby et l'enclume des individus se réclamant du régime au pouvoir qui exploitent l'or de façon clandestine. Comble de malheur, un nouveau découpage administratif rattache la zone productrice de l'or à une autre province. Et pour se faire entendre, les habitants de la localité se constituent en un groupe d'autodéfense pour contrecarrer l'exploitation illégale de cette richesse. L'ex-sous-préfet de Yibobo, Mouli Sougui, qui a démissionné de son poste, dirige aujourd'hui le comité d'autodéfense.
Depuis l'apparition de l'or à Miske, Déby et ses proches voudraient à tout prix exploiter cette richesse. C'est ce que nous n'acceptons pas. Le comité d'autodéfense dont je suis le porte-parole n'a pas de revendications spécifiques. Sinon, l'exploitation dans un cadre légal avec le respect des quotas miniers, nous n'avons aucun lien avec quelques groupes que ce soit. Nous sommes une population civile. Nous défendons notre honneur et notre dignité.
Pour Didi Halaï Mahamat, député du département de Tibesti Ouest, ce problème ne peut être réglé que si le gouvernement reconsidère sa position et applique le code minier.
C'est le département de Emikoussi qui est attaché à la province de Burku qui a causé le problème. Donc nous souhaitons régler ce problème d'une manière légale parce que la violence ne réglera rien. On vient d'adopter il y a quelques mois le code minier. Je pense que si nous respectons les termes, on va régler ce problème d'une manière définitive.
Ce qui se passe dans le Tibesti ressemble à la guerre de David contre Goliath, estime Ahmad Ramadan, un jeune cadre de la localité.
Le seul responsable de ces hostilités, c'est le gouvernement tchadien. Là, je le dis très sincèrement, comme les gens s'opposent à la volonté du régime en place, on te barque avec une colonne de plus de 100 véhicules et nettoyer la population. C'est vraiment honteux qu'un gouvernement aille bombarder sa propre population.
Ahmad Mohamed Bachir, ministre en charge du commerce, des mines et du développement industriel, affirme à VOA Afrique que le code minier ne sera appliqué que lorsque le gouvernement aura maîtrisé la situation dans cette partie du pays.
Le gouvernement a fait le découpage sur l'ensemble du territoire national. Ailleurs, le problème ne s'est pas posé. Pourquoi le problème se pose là-bas? Le code minier, c'est une loi qui est là. Vous allez voir, les gens, la sécurité sera assurée à 100%. C'est le code minier qui sera mis devant pour réglementer toutes les activités là-bas.
Trois chefs de canton de la sous-préfecture de Yibobo qui ont contesté le morcellement de leur localité sont non seulement révoqués de leurs fonctions, mais leurs circonscriptions ont été dissoutes par un décret présidentiel. André Kodmadinga Ndiamena, VO Afrique.
Afrique, Jamina, c'est 93.1 FM au Tchad. Et ouverture ce vendredi du sommet du G20 à Buenos Aires. Les leaders de 20 pays les plus riches du monde se penchent sur plusieurs dossiers, mais les conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine d'une part et les États-Unis et l'Europe d'autre part risquent d'éclipser les autres sujets. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint à Paris Michel Fouquin, conseiller au Centre d'études et prospectives d'informations internationales.
La guerre économique qui a été déclenchée par les États-Unis va absolument dominer complètement les débats du G20. Et c'est surtout l'affrontement entre les États-Unis et la Chine qui va sans doute dominer tous les débats. Et ça, c'est un peu regrettable parce que, après tout, il y a d'autres sujets aussi importants comme le réchauffement climatique qui auraient pu être mis à l'ordre du jour. Cela étant, on s'interroge donc pour savoir si les États-Unis vont mettre en pratique leur menace de taxer les exportations chinoises à destination des États-Unis de 25%, ce qui est tout à fait considérable. Alors, ce qu'il semble à l'heure actuelle se profiler, c'est que les États-Unis et la Chine vont se mettre d'accord pour ce qu'on appelle un moratoire, c'est-à-dire retarder la décision qui devait être prise au 1er janvier 2019, la retarder de quelques mois pour laisser le temps aux négociateurs arriver ou ne pas arriver à un compromis.
Pour ce qui est de l'Europe, par exemple, l'Europe a des préoccupations concernant les taxes sur l'aluminium et l'acier.
Oui, mais c'est, je dirais que sur l'aluminium et sur l'acier, bien sûr, c'est gênant, mais plus grave, il y a une menace qui est beaucoup plus importante, c'est la menace qui porte sur les automobiles, la taxation des automobiles, notamment allemandes, à destination des États-Unis serait une mesure extrêmement grave en termes de conséquences économiques pour l'Allemagne. Et donc l'Union européenne va tout faire pour essayer d'éviter cette situation.
Et le président Trump, en fait, estime que le système international est un peu injuste envers les États-Unis. Vous pensez que c'est une crainte qui est justifiée?
Alors, si on regarde la situation des États-Unis, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un déficit commercial américain qui est très important. Mais, d'un autre côté, si l'on regarde qui est responsable de ce déficit, on s'aperçoit que c'est pour une bonne partie des grandes entreprises américaines qui ont investi en Chine et qui, à partir de la Chine, exportent vers les États-Unis. Je veux dire, prenez une société comme Apple. Apple, qui est une société tout à fait remarquable par la qualité de ses innovations, eh bien, Apple ne produit rien aux États-Unis en termes de production industrielle. Tout est produit en Chine. Et ça, c'est Apple qui le décide. Ensuite, Apple fait des profits considérables. Et pendant toute une période, Apple refusait de rapatrier ses bénéfices aux États-Unis.
C'était Michel Fouquet, juin à Paris. One Drop, le reggae nommé au patrimoine culturel de l'UNESCO. Merci de nous avoir suivis avec Le Monde aujourd'hui. La mise en onde, Lionel Gaïma, à la console, Dan Crafton, Raissa à la présentation. On reste connectés sur notre page Facebook et sur notre site internet pour plus d'actu. Excellente suite de programme. Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.